17h à Nouakchott, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
On commence par le football en Afrique. Les Lions et notables du Cameroun, champions d'Afrique, sont rentrés cet après-midi à Yaoundé. Un retour triomphal au pays après leur victoire 2-1 sur les pharaons égyptiens hier en finale de la CAN à Libreville. Ce cinquième titre continental pour le Cameroun, battu en 1984 et en 2008 par l'Égypte en finale de la CAN, a un goût de revanche. Un succès acquis par une équipe composée de jeunes joueurs après le forfait de dernière minute de plusieurs grosses pointures. Une victoire qui a déjoué tous les pronostics, comme l'explique le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki. Nous reviendrons tout à l'heure pour les extraits sonores. On continue avec les nouvelles. Au Tchad, remaniement ministériel, plusieurs nouvelles personnalités entrent au gouvernement, dont le cinéaste Mahamat Saleh Haroun et l'actuel ambassadeur du Tchad en France. Le nouveau gouvernement compte désormais 38 membres, 28 ministres et 19 secrétaires d'État. Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure restent les mêmes, mais la grande surprise, c'est l'arrivée du prix du jury au Festival de Cannes en 2010. Pour un homme qui crie, Mahamat Saleh Haroun, qui s'est vu confier le ministère du Développement touristique, artisanal et culturel. Il avait présenté à Cannes cette année un documentaire sur le prédécesseur du président Idriss Déby Itno intitulé « Hissène Abré, une tragédie tchadienne ». Après le départ du ministre des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat, élu président de la Commission de l'Union africaine, l'UA, c'est l'actuel ambassadeur du Tchad à Paris, Hissène Brahim Taha qui le remplace. Le ministère des Finances est confié à Christine Georges Digibay, actuellement fonctionnaire à l'Union africaine à Addis Abeba, tandis que le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement revient à Ngueto Yambaï, ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international, le FMI. Depuis ses interventions en 2013 au Mali et en Centrafrique, le Tchad est considéré comme un partenaire de référence pour la stabilité régionale, notamment par la France. En RCA, fin des opérations du démantèlement du camp des déplacés de l'aéroport de Bangui, lancé en décembre dernier. Ce processus a permis à plus de 28 000 personnes de regagner leurs anciens foyers ou de nouveaux lieux d'habitation de leur choix. On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest. Les présidents des cinq pays du G5 Sahel se sont réunis à Bamako aujourd'hui. Trois semaines après l'attaque de Gao, ils ont insisté sur l'urgence d'une riposte coordonnée aux attaques djihadistes. La multiplication des attaques terroristes dans le Sahel est l'une des grandes inquiétudes du G5 Sahel, donc des attaques qui nous rappellent l'urgence de la lutte, a déclaré le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, à l'ouverture de la conférence. Selon un document de travail de la rencontre, des groupes djihadistes utilisent le territoire malien comme base de repli. Une situation qui, a rappelé Idriss Déby Itno, prend de nouvelles proportions. Si nous n'agissons pas vite, notre espace deviendra durablement un espace terroriste, a-t-il ajouté. L'une des solutions avancées pour faire face à cette situation, la mise en place effective de patrouilles mixtes. Face à la montée de l'extrémisme, il faut la mutualisation des efforts pour relever les défis, a renchéri le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Nous devons aller plus loin pour réaliser le Sahel de la Défense, a souligné le chef de l'État malien. Le 24 janvier dernier, le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient entériné la création d'une force commune pour lutter contre l'insécurité dans la zone du Liptako-Gourma, à cheval sur les trois pays, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Nous passons maintenant aux relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Début ce lundi au Tribunal international du droit de la mer, le TIDM, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, d'une série d'audiences publiques destinées à délimiter la frontière maritime entre les deux pays. Le Ghana a été le premier à présenter sa plaidoirie à la réunion, qui se poursuivra jusqu'au 16 février, selon le calendrier publié par le TIDM. Une décision est attendue en cours d'année, a précisé un porte-parole du tribunal, sans toutefois donner de date précise. Le Ghana et la Côte d'Ivoire se querellent sur le tracé de leurs frontières maritimes qui traversent un gisement de pétrole offshore que les deux voisins souhaitent exploiter. Merci d'écouter VOA Afrique en direct de Washington. Quelques jours seulement après la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, la question du Sahara occidental revient à la surface avec de nouvelles déclarations, voire des menaces de la part des protagonistes. D'abord, Brahim Ghalil, chef du mouvement indépendantiste Sahraoui Polisario, a déclaré à l'AFP que toutes les options restaient ouvertes au Sahara occidental après l'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Une référence à peine voilée à la possibilité d'un retour à une confrontation armée dans cet espace désertique où un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991. Le Polisario revendique l'indépendance, mais Rabat préfère un Sahara occidental autonome sous souveraineté marocaine. Et comme pour faire taire toute velléité du front indépendantiste après le retour du royaume chérifien dans l'Union africaine, le ministre marocain délégué aux affaires étrangères, Nasser Bourita, a martelé hier dimanche que son pays ne reconnaîtra jamais la République arabe sahraoui démocratique. Le ministre marocain a parlé de position immuable de son pays, tout en annonçant que Rabat tentera de faire changer d'avis la petite minorité de pays. Ce sont les propres termes du ministre Bourita, qui reconnaissent encore la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Le Front Polisario, pour sa part, souhaite la reprise des négociations sur le Sahara occidental. C'est ce qu'a affirmé son chef, Brahim Ghalil. Par ailleurs, le Maroc a adressé une sévère mise en garde à l'Union européenne, l'UE, en appelant à mettre pleinement en œuvre l'accord agricole avec le Royaume, sous peine d'en subir les conséquences. Si en 2012, cet accord de libre-échange réciproque sur les produits agricoles et de la pêche avait été invalidé en décembre 2015 par le tribunal de l'Union européenne après un recours du Front Polisario contestant l'inclusion du Sahara occidental dans le traité. Toute entrave à l'application de cet accord est une atteinte directe à des milliers d'emplois d'un côté comme de l'autre dans des secteurs extrêmement sensibles. C'est ce qu'a déclaré le ministère marocain de l'Agriculture dans un communiqué. Selon le ministère, la décision du tribunal européen expose l'Union européenne à un véritable risque de reprise des flux migratoires que le Maroc, au gré d'un effort soutenu, a réussi à gérer et à contenir. Nous passons maintenant à l'actualité aux États-Unis. Le bras de fer se poursuit aujourd'hui entre l'administration Trump et la justice américaine sur le décret migratoire. Donald Trump est en effet confronté à une double offensive judiciaire et politique contre son décret anti-immigration. Sa décision est bloquée non seulement par la justice, mais elle est aussi contestée dans la rue et attaquée par les plus grosses entreprises de la high-tech. Facebook, Google, Microsoft, Twitter et Apple ont déposé dans la nuit de dimanche à lundi une requête en justice dénonçant les dommages causés par le texte. Et près d'une centaine d'entreprises se sont jointes à leur plainte contre le décret signé le 27 janvier par le nouveau président qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des réfugiés et des ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans, à savoir l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Plus tôt ce lundi, l'administration Trump avait déjà subi un revers de taille. La Cour d'appel fédérale de San Francisco a rejeté l'appel formulé samedi par le ministère de la Justice qui réclamait l'annulation de la décision de suspendre le décret sur tout le territoire américain prise par le juge de Seattle, James Roberts, vendredi dernier. La Maison-Blanche a maintenant jusqu'à 23 heures, temps universel, pour étoffer son argumentaire auprès de la Cour de San Francisco. Pendant ce temps, les citoyens des pays à majorité musulmane visés par le texte profitent de la suspension du décret pour se rendre aux États-Unis avant un éventuel nouveau revirement. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.